Chers sœurs et frères du monde francophone, encore une fois, mes salutations fraternelles à vous tous. Nous allons maintenant, dans la deuxième partie de ce sermon, expliquer, d'après la parole de Dieu, quelles sont les conditions que Dieu nous montre dans sa parole qui sont nécessaires pour que Dieu nous compte dignes d'échapper à la grande tribulation et les jours du Seigneur qui s'approchent. Dans la première partie, nous avons présenté un panorama prophétique qui nous aide à voir un concept plus clair du lieu de refuge que quelques-uns parmi les églises des dieux et maintenant n'y croient plus, mais de voir comment Dieu clairement nous donne des détails étonnants au sujet de cet événement qui est écrit pour nous à l'avance. Donc, c'est important de voir ces choses parce que là où il n'y a pas de vision prophétique, le peuple est sans frein. Vous pouvez trouver ça dans le chapitre 29, verset 18 du livre des Proverbes. Maintenant, nous allons voir quelles sont les conditions que Dieu nous donne, nous révèle pour que on soit digne d'échapper les choses qui vont venir. Au chapitre 21 du livre de Luc, nous allons voir la première condition que le Christ nous dit juste après avoir fini de décrire les événements de la fin dans le chapitre 21 de Luc. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au chapitre 21 de l'Évangile de Luc. Et après avoir fini la description des événements de la fin et de son retour, je voudrais que, s'il vous plaît, nous lisions ensemble le chapitre 21 et verset 34 du livre de Luc. De l'Évangile de Luc. Verset 24 du chapitre 21. Chapitre 21 de Luc, verset 34. Excusez-moi, chers sœurs et frères. Prenez garde à vous-même. Ce sont des paroles du Christ. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Nous pouvons ici voir, chers sœurs et frères, qu'il est important de jeûner fréquemment, surtout à cette époque où nous voyons les manifestations violentes d'un groupe ethnique qui s'élève contre l'autre et qui précède la formation des royaumes et des empires qui vont aller en bataille les uns contre les autres. Donc, ça, c'est une façon indirecte de la part du Christ de nous dire qu'il faut jeûner, il ne faut pas manger, boire, et ne pas s'arrêter. Au fur et à mesure que les temps de la faim s'approchent, il est important de cultiver la coutume de jeûner fréquemment. Il y en a des gens qui les font une fois par mois. Franchement, mon opinion, humble opinion, qui n'est pas valable comme une exigence biblique, puisque Dieu ne nous donne pas, il nous laisse le choix. Mais à mon humble avis, une fois par mois, ce n'est pas assez quand on voit les temps dans lesquels on vit. Il y en a qui jeûnent deux fois par mois, il y en a qui jeûnent une fois par semaine. Et donc, ça aide beaucoup à allumer, à raviver le feu de la présence de Dieu en nous, comme il est écrit Ne perdez pas cette écriture-là, mais j'aimerais bien lire la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1 et verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux. Souvenez-vous que quand l'Esprit des dieux est venu sur les apôtres et ceux qui étaient présents là dans la première Pentecôte de la Nouvelle Alliance, il est venu en forme de flamme et que ce feu ne devait jamais s'éteindre, comme le feu sur l'autel des sacrifices, d'après ce qui est écrit dans le livre du Lévitique, ne devait jamais s'éteindre. Il fallait toujours raviver cette flamme pour qu'il y ait un état de prière constante dont nous allons lire tout de suite après. Vous voyez toutes ces choses, il y a un rapport entre ces lois physiques. Et ce qu'on fait, nous, au niveau spirituel, maintenant. Je répète, deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Quand la persécution viendra, il ne faudra pas avoir un esprit de timidité. Il faut avoir du courage, chers sœurs et frères. Et souvenez-vous que les lâches sont les premiers dans la liste du lac de feu ou de l'étang de feu, d'après le livre de l'Apocalypse. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux qui tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Voilà, on va être testé. Et beaucoup dépend si nous avons pratiqué le jeûne, l'étude biblique et la pratique de tout ce que nous lisons dans la parole des dieux, pas seulement la connaissance, mais la pratique pour que cela devienne de la sagesse. Revenons à Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Quand on jeûne, on arrête de manger, on arrête de boire et on ne se soucie pas de la vie. On s'isole chez soi tranquillement, comme le Christ, il s'est isolé dans le désert quand il est allé jeûner et comme Moïse était seul sur la montagne avec Dieu, quand il a jeûné, nous autres, on doit chercher le calme de notre foyer, notre maison, et d'avoir un temps paisible d'intimité avec notre Dieu. Et il dit, par l'excès du manger et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. C'est comme ça qu'on garde la flamme allumée, comme l'apôtre Paul conseillait à Timothée. Veillez donc et priez en tout temps. Ça, c'est vraiment un commandement, une exhortation de la part de notre Maître, prier en tout temps. Pour ça, il faut prier plusieurs fois par jour, au moins à genoux, comme le faisait David, comme le faisait le prophète Daniel, son descendant, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc, quelles sont les conditions? D'une certaine manière, le jeûne fréquent et la prière continuelle. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous venons d'expliquer que le 1335 jours, heureux ceux qui seront vivants quand cette persécution commence et qu'ils survivent forts dans l'esprit, dans la présence des dieux, dans la crainte des dieux, jusqu'à ce qu'il y ait l'abomination de la désolation. 45 jours après, quand il faut encore 1290 jours pour le retour du Christ, et qu'il continue encore en priant continuellement dans la présence des dieux et qu'ils aient cette protection encore des ailes de l'aigle pour aller vers les lieux de refuge dans le désert et d'entrer dans les lieux de refuge et d'échapper à tout ce qui est à venir parce qu'ils seront dans la présence des dieux. Voilà, c'est une condition essentielle pour échapper, chers frères. Aujourd'hui, on n'a jamais eu tant de distractions dans l'histoire humaine comme de nos jours. Il ne faut pas le mentionner, mais je le mentionne toujours. L'Internet, les mobiles, la télévision et tout cela qui absorbe presque totalement le temps, surtout de la jeunesse, chers frères. De paraître debout devant le Fils de l'homme. Exactement, il va survivre les 75 jours de cette première persécution. Il entrera dans les lieux de refuge pendant 1260 jours. Faites l'addition, s'il vous plaît, le total entre les 75 jours du début de 1335 jours. Et puis, si vous ajoutez le jour de protection dans les lieux de refuge, ça donne un total de 1335 jours, dont la première partie des 75 jours, c'est la persécution qui vient sur ceux qui vont être protégés et qu'il faut encore passer cette épreuve. Immédiatement après commence, comme je vous l'ai expliqué, la persécution de 1260 jours, ou de 3 ans et demi, ou tant et la moitié d'un temps, sur ceux qui ne seront pas trouvés dignes d'échapper. Voilà la première condition, donc, garder la flamme allumée, garder cet esprit de prière constante, jeûner fréquemment, étudier la parole de Dieu, qui est la lampe qui nous allume. Donc, voilà, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, on n'a pas la force nous-mêmes. Il faut que ça vienne de Dieu. Et si on n'est pas connecté avec Dieu, comme les vierges prudentes, on sera comme les vierges folles qui n'ont plus de lumière parce qu'elles se sont éloignées de Dieu par négligence, par paresse, par un manque de diligence spirituelle. Veuillez donc prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien sûr, ça s'applique à ceux qui sont morts avant nous, qui ont persévéré jusqu'à la fin. Eh bien, ils seront debout, bien sûr. Ils vont ressusciter et ils vont monter vers le Christ dans les nues. Pendant le jour, je suis enseigné. Donc voilà, nous pouvons ça mettre comme la première condition pour entrer dans les lieux de refuge. Quelle sera la deuxième? Nous allons donc lire une promesse que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 3, et nous allons donc lire le chapitre 3, verset 7, lettre à l'église de Philadelphie. Il dit, « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie », ça veut dire l'église de l'amour fraternel. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Donc il commence avec cette déclaration qui veut dire l'opportunité, l'occasion que Dieu nous donne de prêcher l'Évangile par la porte ouverte de la télévision, de l'Internet, etc. Et des revues et des journaux et des brochures. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. » On n'est pas très fort, on est très peu. La faiblesse du prince, c'est le manque de peuple. On est un petit troupeau. On n'a pas une grande puissance pour faire des miracles, nous autres, quoi qu'il y en a des miracles, continuellement dans l'Église de Dieu. « Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Donc, on a survécu toutes les attaques du diable, l'apostasie des années 90, qui a commencé peu après la mort de M. Armstrong, et puis la rébellion des années 98, contre la prédication de l'Évangile. Et puis on a persévéré dans l'Église du Dieu vivant. On a continué, on n'a pas permis qu'on arrête la grande commission de prêcher l'Évangile au monde. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ça sera quand on sera déjà des êtres divins, nés de nouveau. Et puis il dit, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Il faut persévérer dans l'obéissance aux 10 commandements. Mais quand Dieu nous met une porte ouverte, il faut persévérer dans la parole du Christ. Quelle parole? La porte ouverte, vous le savez bien, je vous lis quelques écritures pour que vous vous souveniez. C'est l'occasion que Dieu nous donne de prêcher l'Évangile. Et il y a une église qui a continué avec de ferveur à le prêcher par la radio, par la télévision, sur l'Internet, par des journaux, par des brochures, comme aucune autre. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'il fallait que ces paroles s'accomplissent. Et nous, Dieu nous a mis comme des instruments si nous voulons répondre. Souvenez-vous ce que le Christ a commandé jusqu'à la fin du temps. Il y en a qui disent qu'il ne faut plus prêcher l'Évangile, ou il y en a qui sont négligents et qui ne mettent pas l'effort nécessaire pour le prêcher. Par exemple, regardons au chapitre 28 de Matthieu. Reportez-vous là, s'il vous plaît, chapitre 28, verset 16 de Matthieu. Chapitre 28, verset 16 de Matthieu, le commandement du Christ dans lequel il faut persévérer. Pas seulement dans les 10 commandements, mais dans les commandements de prêcher l'Évangile à toutes les nations, avec toutes nos forces, de toute notre âme. Chapitre 28, verset 16 du livre de Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il faut persévérer, il faut continuer à prêcher cet évangile. Et voilà la promesse pour ceux qui en profitent au maximum de cette porte ouverte. Nous allons voir maintenant que la porte ouverte, ça a à voir exactement avec la prédication. Si vous voulez vous reporter, s'il vous plaît, à la première épître aux Corinthiens, chapitre 16. Nous voyons une mention de cette porte au chapitre 16 de la première épître aux Corinthiens, on peut commencer au verset 8. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 8. Voilà l'explication de cette porte ouverte dont il faut faire l'utilisation jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu nous permette de continuer de les faire. Et toujours, la porte est toujours ouverte. Donc, on doit continuer à les faire. Chapitre 16, verset 8 de la première épître aux Corinthiens. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Une porte ouverte d'un accès efficace m'est ouverte. Alors, confirmons ça avec ce qui est écrit dans l'Épître aux Colossiens, pour qu'il n'y ait pas de doute de quoi il s'agit, et l'obligation donc, comme une condition d'échapper à tout ce qui doit venir, c'est de se servir de cette porte au maximum, pas moitié-moitié. Au chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens, reportez-vous, s'il vous plaît, chapitre 4, verset 2 de l'épître aux Colossiens, pour voir qu'est-ce que ça veut dire, cette porte qui nous est ouverte. Chapitre 4, verset 2, Colossiens, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en, vous, en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans la chaîne, et le faire connaître comme je dois en parler. Voilà la preuve de ce que Dieu nous dit dans Apocalypse 3. Je vous prie de vous reporter de nouveau au chapitre 3, verset 10. Parce que, chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » Donc, une façon de persévérer, c'est de démontrer qu'on utilise cette porte pour prêcher. C'est une façon de persévérer, parce que le Christ a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, Dieu promet le lieu de refuge dont il nous fait l'explication dans le chapitre 12 que nous venons d'examiner dans la première partie de ce sermon. Donc, il est important de persévérer et d'utiliser la porte au maximum de nos possibilités que Dieu nous donne pour avoir cette protection. Nous pourrons dire qu'après Luc, chapitre 21, verset 34 et le verset suivant, ça c'est une autre condition, parce qu'il dit qu'il faut cette persévérance, pas seulement la fidélité à garder les commandements de Dieu, mais la fidélité à être ses témoins et à prêcher. Voyons par exemple le livre des Actes, reportez-vous au chapitre 1er du livre des Actes, s'il vous plaît. Chapitre 1er chapitre du livre des Actes, nous allons lire chapitre 1 et verset 6 dans les Actes des Apôtres pour éclaircir encore ce concept de la prédication de l'Évangile comme une condition pour échapper ce qui arrive, au chapitre ce qui va arriver. Chapitre 4, chapitre 1 du livre des Actes et verset 6. Voici ce qui est écrit. Oh, je ne trouve pas. Car Jean a baptisé, chapitre 1, verset 6. Parfois, dans cette version, le numéro de versets sont tout petits. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dieu va rétablir le royaume d'Israël. C'est ceux qui seront sacrificateurs des rois, c'est l'Israël de Dieu qui va régner sur la terre quand le Christ va retourner. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Écoutez bien ça. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, vous serez mes témoins. Et il leur dit qu'il fallait donc prêcher comme un témoignage cet évangile. C'est ce que ça veut dire. Je répète, et vous serez Vous recevrez une puissance, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, témoin? Le mot grec, c'est martyr. Martyr, normalement, est celui qui meurt, qui verse son sang pour une cause. Mais Dieu, aujourd'hui, en nous ouvrant une porte, quand il n'y a pas eu une persécution contre cette prédication encore, comme celle que nous avons déjà étudiée dans la première partie, on peut encore prêcher l'Évangile sur l'Internet, de par le monde. Donc, on peut être un martyr sans besoin de mourir. On peut être un témoin. On peut donner un témoignage. On peut prêcher l'Évangile comme un témoignage. Et ceux qui écouteront deviendront des disciples, bien sûr, en obéissant l'instruction du Christ que nous avons lu dans les chapitres 28 de Matthieu. Donc, Dieu nous donne l'occasion maintenant d'être des témoins sans besoin de verser le sang. Parce qu'il n'y a pas encore cette persécution, mais il y a encore une porte ouverte que éventuellement sera fermée. Mais tant que cette porte est ouverte, il faut en profiter au maximum pour être des témoins jusqu'à la fin du monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous allons voir maintenant il y en a qui devront être des témoins, littéralement dans le sens de verser leur sang, de martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas participé activement par leurs prières et leurs jeûnes, leurs dîmes, leurs offrandes, leurs services à la prédication de l'Évangile comme la commission numéro un. Il y a d'autres églises qui le négligent. Ils en font un travail. Mais il fallait qu'il y ait un groupe qui le fasse de toute son âme, de tout son cœur. Eux, ils reçoivent cette protection de l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui viendra sur le monde entier. Ceux qui ne le feront pas, il faut que la parole du Christ s'accomplisse et qu'on soit des témoins, c'est-à-dire des martyrs, d'une façon ou d'une autre, ou bien on prend au sérieux et on prêche au monde cette vérité jusqu'à ce que Dieu nous permette de le faire, tant que la porte sera ouverte, elle est toujours ouverte. Ou bien, si on ne le fait pas, si on est négligent, si on est devenu une petite société fermée, sans prêcher, sans utiliser les ressources pour la prédication de l'Évangile, alors donc, Dieu ne veut que personne se perde, mais voici ce que Dieu nous dit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 4. Reportez-vous là-bas, s'il vous plaît, chères sœurs et frères. Donc, voilà l'importance de soutenir, donner le soutien, de participer à cette œuvre de toutes nos forces par la prière, par le jeûne, par nos offrandes, par nos dîmes. Contribuer à la publication du témoignage du royaume de Dieu. Chapitre 20, verset 4, Apocalypse 24. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Alors voilà, tous ceux qui vont s'asseoir sur ces trônes, depuis Abel, le juste, jusqu'au dernier que l'Éternel va permettre d'entrer dans son Église, d'être engendré par son Esprit. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, donc ils vont régner avec le Christ. Et je vis, c'est-à-dire parmi eux, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc il y a quelques-uns parmi ceux qui s'assoient sur les trônes, qui seront décapités à cause du témoignage, c'est-à-dire ils seront des martyrs, témoins, témoignages. C'est le martyr. Et à cause de la parole de Dieu, Et de ceux dont ceux sont ceux que le diable va persécuter quand il partira protégé de l'heure de la tentation ou de la grande tribulation dans les lieux de refuge. Parmi eux, il a vu ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont gardé. Et c'est le diable s'en va chercher ceux qui ont le témoignage de Jésus, comme nous l'avons lu dans le chapitre 12, dans la première partie de ce sermon. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont été pendant les 3 ans et demi, n'ont pas été protégés, où il fallait adorer la bête pour pouvoir acheter et vendre, mais ils ont refusé ni son image, c'est-à-dire ils ont gardé les commandements de Dieu, ils ont resté saints et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains, c'est-à-dire ils ont gardé le sabbat, même si ça leur a coûté la vie. Ils n'ont pas accepté le système, la loi changée par des êtres humains inspirés par le diable. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le Christ le dit en parlant de l'Église à Laodicée, que ceux qui vaincront vont s'asseoir avec lui dans son trône. Mais voilà, c'est accompli là. Mais ils n'ont pas été protégés, mais ils ont persévéré jusqu'à la fin dans les témoignages, là où la porte n'était plus ouverte, mais il fallait encore démontrer qu'on était des disciples du Christ, donc ils sont morts pendant la grande tribulation, où il fallait adorer la bête, il fallait adorer l'image, il fallait recevoir la marque de la bête, il fallait briser le sabbat et briser les commandements des dieux de ne pas adorer d'image, mais ils ne l'ont pas fait, ils sont restés fidèles, ils sont quand même, ils vont s'asseoir sur des trônes, mais ils n'auront pas été préservés de la grande tribulation, mais de toute façon, ils vont être dans les royaumes des dieux. Et nous allons voir ici, ça c'est l'ère de Laodicée, et le Dieu, il s'adresse à eux, le Christ, vous le savez bien, ils vont s'asseoir avec le Christ pour régner sur le monde. Au chapitre 3, verset 20 de l'Apocalypse, vous le lisez, chers sœurs et frères. Voici, je me tiens à la porte, Apocalypse 3, 20, et je frappe. Il parle à une église qui maintenant est tiède, non pas la passion pour la prédication de l'Évangile, mais ça va se ranimer quand la persécution viendra, leurs yeux s'ouvriront, ou nos yeux. Moi, je ne suis pas sûr que je vais échapper, moi, chers sœurs et frères. Donc, ils vont s'éveiller. Voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, c'est-à-dire qui va persévérer dans les commandements de Dieu jusqu'à la fin, même s'il n'a pas été diligent dans la prédication, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, parce qu'il sera fidèle aux commandements de Dieu, même si ça lui coûte la vie. Comme moi, j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le voilà, expliqué par la même Bible. Ça, c'est la deuxième condition, donc, pour échapper de la grande tribulation, être protégé au lieu du refuge, c'est être donné sa pleine participation avec nos habiletés, nos capacités à la prédication de l'Évangile comme un témoignage maintenant que Dieu nous ouvre la porte. Alors, il y a d'autres conditions. Je voulais que vous reportiez, s'il vous plaît, au chapitre 33 du livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 33, verset 14. Voici les conditions. Les pécheurs, chapitre 33, verset 14 d'Ésaïe. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Souvenez-vous que Sion, Jérusalem, sera occupé par la bête et le gouvernement de la bête pendant 3 ans et demi. Vous trouvez ça dans le livre, dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Je vous le montre, chers sœurs et frères, pour que vous sachiez que les pécheurs sont ceux qui adorent la bête et l'image, qui brisent les lois de Dieu et qui se sont emparés de la ville de Jérusalem pendant 42 mois. C'est la même période de 1260 jours et la même période des temps et la moitié d'un temps. et la même période de 3 ans et demi. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 11 de l'Apocalypse, et vous le verrez au chapitre 11, verset 2 de l'Apocalypse, comment la bête et les gouvernements de la bête va s'installer à Jérusalem. Donc c'est là où ils vont être effrayés. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. D'ici Apocalypse 11, verset 2. Car il a été donné aux nations, c'est-à-dire aux gentils, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors, revenons au chapitre 33, verset 14 d'Ésaïe. Chapitre 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Ils savent qu'il y a une attaque de l'Est qui s'approche. Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice. Voilà la réponse des dieux pour ceux qui se posent la question. Donc, celui qui marche dans la justice, qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la justice? Ça veut dire marcher de tout son cœur dans les commandements des dieux. Nous allons le démontrer tout de suite au psaume 119, s'il vous plaît. Donc, psaume 119, verset 172, psaume. Oh, et ici, dans cette version de la Bible, Louis II, au psaume 119, verset 172, il dit que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Il y a d'autres versions qui disent tous tes commandements sont justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la justice? Voyons le premier verset du psaume 119. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Les gens qui connaissent les commandements de Dieu, qui méditent dans la loi de Dieu et qui la pratiquent diligemment. Voilà une condition essentielle donc pour échapper à la grande tribulation et pouvoir être jugé digne d'échapper à la grande tribulation. Je répète, verset 15, chapitre 33 d'Ésaïe, verset 15. Celui qui marche dans la justice. Donc, nous le voyons, nous l'avons vu expliquer, psaume 119, verset 1. Et beaucoup d'autres versets dans ce psaume parlent du chemin de la loi de Dieu et qui parlent selon la droiture. Donc, par nos paroles, de l'abondance du cœur, la parole, la bouche parle, c'est-à-dire il faut démontrer qu'il y a une conviction profonde d'observer la loi des dieux. Ça se manifeste dans nos paroles. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, c'est comme ça qu'on sait qui marche dans l'intégrité. Nous pouvons voir ça dans l'épître de Jacques. Si vous voulez vous reporter là-bas, s'il vous plaît, au chapitre 3 de l'épître de Jacques, nous voyons comment, quand on marche dans la droiture, ça doit se manifester dans nos paroles. Donc, chapitre 3 de l'épître de Jacques, si vous voulez vous reporter là-bas, pour savoir exactement ce qu'il faut que nous pratiquions pour être jugés dignes d'échapper et de entrer dans les lieux de refuge. Jacques, chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas, je lis en commençant le verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui se mettent à enseigner. Sur l'Internet, il y a beaucoup plus de gens qui les suivent, sont naïfs, et ils croient, ils sont menés par devant des doctrines. On vit dans cette époque. C'est la superficialité, il n'y a pas cette profondeur. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà pourquoi il est écrit comme une condition pour entrer dans les lieux de refuge. Il dit qu'il faut marcher dans la justice et il faut parler avec droiture. Regardons encore le chapitre 12 du livre de Matthieu, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Chapitre 12 du livre de Matthieu, verset 34. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Voici les conditions. Donc Dieu, ce qu'il veut, pour ceux qu'il veut protéger, c'est des gens qui ont la maturité spirituelle, qui ont eu de la croissance spirituelle par la persévérance dans la prière, l'étude, le jeûne, la pratique de tout ce qu'ils apprennent de la part de Dieu. Au chapitre 12, verset 34 de Matthieu, nous lisons « Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Et par nos paroles, nous serons jugés dignes d'échapper et d'aller dans les lieux de refuge. Et par nos paroles, si nous ne parlons pas avec droiture, nous serons jugés indignes d'aller dans les lieux de refuge. Revenons maintenant au chapitre 33 d'Ésaïe, s'il vous plaît, et continuons en étudiant les conditions pour échapper de la grande tribulation. Donc, c'est le caractère mûr que Dieu cherche en ceux qu'il veut protéger. On continue. Et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion. Il y a une autre version qui nous dit une façon qu'on peut appliquer un peu mieux de nos jours. Je vais vous dire au verset 15, 33, 15, une autre traduction. Il dit qui est le gain de violence. Qui est le gain de violence. Vous savez que les films deviennent de plus en plus violents. Quand nous participons, quand nous payons pour voir ce spectacle de violence dont la terre est remplie de plus en plus, comme était la terre remplie de violence avant le déluge de Noé, et que nous participons et que nous enrichissons ceux qui produisent ces spectacles, c'est une façon dont on peut comprendre ça. Si notre façon de nous entretenir ou de nous, notre divertissement, c'est la violence, chers sœurs et frères. Donc, on n'est pas prêt parce qu'on est attaché au courant de ce monde. Après, il dit, donc je vous répète la traduction qu'on pourrait appliquer ici, sur le chapitre 33, il dit de d'Ésaïe, verset 15, il dit qui est le gain des violences. On sait que les films sont de plus en plus violents parce que c'est comme ça qu'ils attirent le public de notre époque. Donc, nous, on ne doit pas participer à cela. Nous allons voir que ces conditions ont beaucoup à voir avec la façon dont les gens se divertissent de nos jours. C'est avec les transgressions de la loi des dieux. Principalement, c'est la violence. C'est en versant du sang que les gens vont ou qu'ils font des jeux violents ou qu'ils regardent des spectacles violents ou bien qu'ils regardent la pornographie ou qu'ils regardent des films de démonisme, des vampires, et ils se contaminent en ayant ainsi un contact avec des êtres spirituels et impurs. Donc continuons ici. La description, verset 15, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, pour ne pas accepter un pot de vin. Vous savez qu'il y a beaucoup de ministres à l'époque de l'apostasie qui est arrivée dans l'Église des dieux, dans les années 90, quand ceux qui contrôlaient la bourse, qui contrôlaient l'argent, se sont emparés du pouvoir. Ils voulaient que le ministre prêche des fausses doctrines. Et il y en a qui ont eu peur. J'en connais personnellement, je ne vais pas mentionner des noms parce que peut-être il y en a qui se sont repentis. Je ne vais condamner personne. Mais il faut faire attention, je n'ai pas encore fini ma carrière non plus. Mais il y en a qui ont eu peur de prêcher la vérité telle qu'elle nous avait été enseignée, telle qu'elle est écrite, et leur salaire devint un présent, un pot de vin, pour ne pas prêcher la vérité avec clarté, comme un son des trompettes que l'on sonne avec de l'incertitude, qu'on ne sait pas s'il faut le préparer pour la bataille ou non. Il y en a beaucoup qui ont eu peur, et c'est devenu un présent. Et ceux qui ne se sont pas repentis de ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc, ils ne sont pas prêts pour être protégés, parce qu'ils n'ont pas montré le zèle pour la parole de Dieu. Et Dieu, la prochaine fois qu'il va les éprouver, ou qu'il va nous éprouver, ce n'est pas avec un chèque, ce n'est pas avec le salaire, c'est une question de vie ou de mort. Il faut que Dieu sache qui est en notre cœur, à nous, éprouvant par le feu de l'épreuve pour savoir ce que nous allons faire. Il y a trop de ministres qui ont reçu un pot de vin, un présent, un salaire, parce qu'ils avaient peur de dénoncer l'apostasie. Et puis, donc, sinon on fait ça, on n'est pas prêt. Ce qui va arriver à ceux qui vont vouloir acheter et vendre, ils vont adorer la bête pour garder leur vie physique. Ils vont perdre leur vie spirituelle parce que nous avons lu au chapitre 20, verset 4 de l'Apocalypse, il n'y a personne qui est nommé là parmi ceux qui vont régner qui adorait la bête. Ceux qui n'ont pas adoré l'image, qui n'ont pas adoré la bête, qui n'ont pas reçu la marque, sont ceux qui vont s'asseoir sur des trônes. Si quelqu'un l'a fait, il ne sera pas là, parce qu'il a reçu un pot de vin pendant la tribulation. Et maintenant, Dieu aussi nous avertit ça, chers sœurs et frères, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui perdent leur opportunité, leur occasion d'aller dans le lieu de refuge parce qu'ils écoutent cette musique rock violente. Par exemple, il y a un groupe, il y en a beaucoup, des dizaines, des groupes de la musique rock qui est violente, qui est, pour ainsi dire, sanguinaire. Il y a un groupe qui s'appelle Sabaton. Il y a des jeunes dans l'église qui l'écoutent avec leurs oreilles. Ils nourrissent leur esprit avec la violence, avec la musique violente de ce monde, inspiré par Satan, le diable. Ils sont en train de s'exclure du lieu de refuge. Je vous le dis du fond du cœur, à tous ceux qui nourrissent leur esprit avec ce genre de musique sanguinaire. Ils n'auront pas entré au lieu de refuge. Il faut qu'ils soient purifiés. Il faut qu'ils prennent à cœur, au sérieux, le chemin des dieux et qu'ils rejettent totalement le chemin du diable. Il est meurtrier dès le début. Et c'est ça ce qu'on entend dans cette musique, et dans le rap. Il y a beaucoup qui écoutent, qui est violent, qui est sanguinaire. Et voici, ces choses ne s'appliquaient jamais comme aujourd'hui parce que ces choses sont disponibles très facilement aujourd'hui. Il dit qu'il ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Va voir le rap, Voilà la musique rock, voilà la violence et le sang dont on parle. De la haine, la rébellion, inspirée par le diable et ses démons. Il y a des jeunes dans l'église qui se nourrissent de ça. Ils ne seront pas dans les lieux de refuge. Oh. Juste seulement s'ils se repentent. Autrement, ils n'y seront pas. C'est ce que Dieu dit. Nous allons continuer, vous allez voir. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et c'est ça ce qui rentre là-dedans. Pour nourrir l'esprit. Dieu ne peut pas habiter. Dieu est un Dieu de paix et d'amour. Il veut que nous ayons le fruit de l'esprit. Mais si c'est ça ce que rentre en nos cœurs, c'est ça ce qui va sortir tôt ou tard dans nos paroles. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, la violence de nouveau, la pornographie, le démonisme, les vampirismes. Voilà, je l'ai vu dans le métro à Paris. Comme annoncé, ce spectacle dans un des théâtres, je ne me souviens plus du nom, dans Vampire romantique. Il invitait toutes les jeunes dames à aller voir ce spectacle. Des choses inspirées par le diable, qui boivent le sang. Où est la vie? La vie se trouve dans le sang. Le diable est un meurtrier dès le début. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait verser le sang des gens ou il suce le sang, la vie des personnes. Voilà, ça c'est se mettre dans les mains du diable et s'entretenir avec ça. Ce n'est pas de la plaisanterie, chers sœurs et frères. Et puis la pornographie envahit tous les milieux et tous les âges, les jeunes, même les enfants. Avant leur adolescence, ils en ont vu, et ils en ont vu de la pornographie. Et leur esprit se pervert, et il y a une perversion déjà assimilée. La perversion se diffuse de manière incontrôlable. Et les parents n'ont pas assez de contrôle à ce que les ados voient. Je viens de lire dans le Nouvel Observateur, ils ont franchement, ils ont une addiction à leur mobile. Ils voient des choses dont les parents ne savent pas. Mais là, il y a un avertissement qui s'ébante les yeux pour ne pas voir le mal. Ils ne veulent pas se contaminer avec ce monde. Voilà les conditions. Et ça ne s'appliquait jamais de la même façon. Comme cela s'applique de nos jours. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Voilà. Des rochers fortifiés seront sa retraite ou son lieu de refuge. Comme Petra, c'est une forteresse, c'est un rocher énorme. On n'a jamais été dogmatique, c'est ça les lieux de refuge. Du pain lui sera donné. Nous l'avons lu dans Apocalypse 12. L'Église sera nourrie dans un lieu préparé pour elle dans le désert pendant des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Ici, nous le voyons. Des rochers fortifiés seront sa retraite dans le désert. Du pain lui sera donné, il sera nourri. De l'eau lui sera assurée. Voilà des conditions pour aller dans les lieux de refuge. Et Dieu nous avertit clairement de quoi ce verset il s'agit. Donc, il y a encore une autre écriture que je voulais que vous regardiez. C'est le livre des Sophonies, chers sœurs et frères. Le livre des Sophonies en hébreu. Sophonie, qui est l'un des derniers prophètes avant le prophète Agée, le prophète Zacharie et Malachie, se trouve Sophonie juste après le prophète Habacuc. Donc, nous lisons ici au chapitre 2. On va voir si cette version est correcte, parce qu'il y en a qui, la plupart, ne sont pas correctes. Vous trouverez la version la plus exacte dans l'Église, excusez-moi, dans la Bible King James, surtout l'ancienne version King James. Chapitre 2 de Sophonie. Le livre de Sophonie, ou ce nom de ce prophète-là, veut dire « celui que Dieu cache » ou « celui que Dieu protège ». Pourquoi? Nous allons le voir ici. « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur ». Franchement, la traduction, franchement, n'est pas du tout exacte. C'est que la version King James nous dit, c'est rassemblez-vous, nation non désirée. Prenez note, s'il vous plaît. Dieu le dit deux fois. Rassemblez-vous, nation non désirée. Le Christ a prédit que nous, le peuple de Dieu, la nation de Dieu, l'Israël de Dieu, le petit troupeau, sera haï de toutes les nations. Donc Dieu nous invite, par l'intermédiaire de ce prophète, à nous rassembler comme nation non désirée, comme nation persécutée. Ici, il s'agit de cette première persécution de 75 jours. Comment pouvons-nous le savoir? Continuons. Donc, souvenez-vous, la traduction correcte, c'est rassemblez-vous, nation non désirée, pas nation sans pudeur. C'est nation non désirée. Dieu est en train de parler de son peuple qui est haï et qui sera persécuté et qui lui sera la première partie de cette persécution de 75 jours. Avant que le décret s'exécute. Quel décret? L'adoration de la bête. D'abord, il y a un décret quand le feu vient du ciel, proclamé par le faux prophète, il fait tomber du feu du ciel. Donc, il dit qu'il faut adorer la bête. Mais le décret n'est pas encore exécuté. Il y a un temps. Il paraît qu'il y a 75 jours avant qu'il ne soit exécuté, en sorte que si on n'adore pas la bête, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre, on ne peut pas se déplacer sans payer ou acheter, c'est-à-dire sans avoir adoré la bête. Donc, c'est très intéressant que ça, il y a une référence ici à la première partie de cette persécution avant que le décret s'exécute. Ça veut dire qu'au début, des 1335 jours, ça sera quand on fait le feu du sang du ciel et il y a un décret qui est proclamé qu'il faut adorer la bête, qu'il faut adorer l'image, il faut recevoir la marque dans son bras et sur son front. Mais le décret n'est pas encore exécuté. Le décret va s'exécuter exactement au moment où la bête entrera dans Jérusalem, 1260 jours avant le retour du Christ, 75 jours après que le miracle a été fait pour que les gens adorent la bête, mais on peut, le décret n'est pas encore exécuté. C'est étonnant de voir la précision de ces prophéties. Avant que le décret s'exécute et que ce jour, comme la balle passe, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Il y a d'abord la colère du diable, et après la colère de Dieu. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Donc Dieu veut que nous ayons cette humilité, qu'on peut faire preuve d'humilité quand on reçoit la correction avec humilité et gratitude, qui pratiquait ses ordonnances. Voilà les conditions. Recherchez la justice. Nous venons de le voir dans le chapitre 33 de Ésaïe. Recherchez l'humilité. Dieu résiste les orgueilleux. Il donne sa grâce ou sa faveur aux humbles. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Voilà des conditions, il y en a encore d'autres, mais vous pouvons maintenant avec ça, nous avons assez d'instructions. Il faut chercher l'humilité. Il faut donc démontrer à Dieu qu'on a la crainte des dieux. Et voilà, avec le livre des Sophonies, on complète le cadre pour le message d'aujourd'hui. Les conditions pour être épargné ou pour entrer dans les lieux de refuge et pour être épargné de la grande tribulation. Ça sera donc à la prochaine, chères sœurs et frères.